Espace 2. Il y a à l'intérieur de nous, au plus profond, une vie qui cherche à se dire et à se donner. Cette vie a quelque chose à voir avec l'altérité, le rapport à l'autre, mais l'on peut inconsciemment refuser de vivre de cette vie. Bonsoir et bienvenue dans le quatriolet de nos conversations avec le psychiste jésuite Denis Vas. Alain Potet signe la réalisation. Catherine Erard est avec vous jusqu'à 23h. La vue d'esprit. La réflexion de Denis Vas sent ainsi dans des récits d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, qui n'arrivent pas à entrer dans la vie, qui refusent d'être le réel, qui imaginent que la vie ne leur a pas vraiment été donnée, ne leur a été donnée que pour mieux être reprise plus tard. Personnes qui se trouvent coupées du monde, des autres, enfermées dans leur bulle. La réflexion de Denis Vas est complexe, alors pour nous permettre d'entrer davantage dans sa vision de l'homme, il s'est mis lors de notre entretien à dessiner sur une feuille, à me faire un schéma. L'entendre, on va parler d'un moi qui se projette partout et d'une altérité parfois tout de même, et mal parlons-nous. Denis Vas, pour reprendre ce dont on parlait hier, cette parole qui est chère, qui est vérité, on a utilisé beaucoup de mots, on sent qu'on tourne autour de quelque chose. Et là, vous venez de prendre une feuille pour qu'on avance, qu'on saisisse peut-être un peu mieux, qu'on essaye de comprendre quelque chose qu'on comprend pas forcément parce que c'est pas de l'ordre de l'intellectualisme. Et vous venez de dessiner un petit rond, l'homme, le sujet, et puis un trait qui part loin, et on a l'autre avec un gras. Et l'autre, vous me disiez, c'est ce qui est vraiment totalement, c'est pas nos représentations, c'est pas l'image qu'on s'en fait, on est vraiment dans quelque chose d'autre.
Et d'autre, vous voyez bien, ce qui est radicalement autre parle, c'est ce qui voudrait se dire et qu'on ne peut pas dire.
Ce dont on a l'impression, on tourne, tourne, mais on...
Alors vous voyez que ce qui voudrait se dire et qu'on ne peut pas dire, c'est au cœur de nous-mêmes. Donc vous voyez bien, cette altérité dont on parle tant... En fait, nous ne pouvons la découvrir que dans les actes mesures où nous ne faisons pas, en parlant nous-mêmes, obstacle à ce qui parle en nous.
C'est toute la critique que vous faites d'un savoir vide.
C'est une connaissance qui est un savoir qui voudrait être un savoir objectif, c'est-à-dire un savoir d'objet, un savoir des objets qui sont dans le monde et donc qui sont extérieurs à nous-mêmes. Et cette connaissance-là, elle est aussi fondamentale. C'est la connaissance du monde, c'est pas la connaissance de la vie.
On ne connaît pas la vie comme on étudie une grenouille, entre guillemets.
Non. On la reconnaît, comme quand on est une femme. Voilà. C'est tout à fait différent. Mais n'empêche que l'un n'est pas le contraire de l'autre. Tous les deux se trouvent inscrits dans le sujet naissant que nous sommes. Mais vous voyez bien que la pulsion épistémologique, c'est-à-dire ce qui nous peut connaître, et comme l'œil, comme la bouche, comme l'oreille, comme le sexe, dévoratrice. C'est-à-dire qu'elle réduit tout à elle-même, elle en jouit. Et il n'y a pas de jouissance plus grande que la jouissance intellectuelle. Elle est jouissance du savoir, ce qui nourrit notre perversion. Et vous voyez bien comment, au lieu d'aimer, au lieu d'avoir un rapport d'amour avec un sujet, une femme ou un homme, ça peut être réduire, sous prétexte d'amour, à un objet d'amour.
Le réduire à l'image que je m'en fais aussi.
Le réduire à l'image que je m'en fais, et non pas à ce que je cherche et qui est en moi plus autre que moi-même, ce qui parle en moi, mais à ce que j'imagine être en moi. Alors, je vais aimer quelqu'un, ça va être le coup de foudre, je vais l'avoir rencontré le jour où j'étais dans un désespoir extraordinaire, j'ai rencontré une femme qui m'a, voilà, qui m'a fait un signe, et alors, et c'est le coup de foudre, c'est-à-dire, je suis elle, elle est moi. Donc, moi j'ai entendu dire, je vous assure, pendant un homme me dire, je suis ma femme. Bon, alors, vous voyez bien que ce rapport-là, ou bien je suis la bonté même, si ce n'est pas référé à une altérité qui parle en vérité, c'est forcément pas vrai que je suis la bigote, bigot qui veut être la charité, Dieu incarné. Bon, donc, mais vous voyez bien que cette bonté-là, elle est fondée sur la négation de la méchanceté qui est en moi. Donc, pendant longtemps, on va croire qu'on est bon comparativement aux autres qui ne le sont pas. Hein? Ils sont méchants, tandis que moi, je suis bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être la bonne sœur qui croit qu'elle est toute bonne et qui va tout à coup découvrir que, disons, c'est fondé, elle ne le dira pas comme ça, mais elle va découvrir qu'au fond, la vérité de sa bonté, c'est qu'elle cache la méchanceté qui est un. Alors voilà, elle va voir à découvrir la méchanceté qui est en elle. Et alors elle va dire, mais moi au fond, c'est la débauche. Et paf, ça arrive très très souvent. Les gens qui sont bons à mourir, ils finissent par être débouchés à mourir. Mais c'est le même endroit. Et progressivement, nous existons comme bons ou mauvais. Regardez dans l'éducation si ça arrive souvent. Ou bons ou mauvais. Alors, on ne peut pas sortir de là. Ce faisant, ce qui est constamment évité, vous voyez bien que ça croise, mais en même temps, ça traverse la ligne selon laquelle notre désir inconscient, c'est-à-dire celui de constituer de la preuve que nous ne pouvons pas dire, eh bien, il est entre les deux. Et au lieu de stopper à cet endroit-là, personne ne nous convoque à cet endroit-là, nous allons passer de la bonté à la méchanceté, de la méchanceté à la bonté. Alors nous sommes dans la névrose bipolaire, comme on dit aujourd'hui.
Parce que je vais décrire votre schéma qui a évolué pendant que vous parliez. On a le sujet, à l'autre bout, on a l'autre avec un grand A.
À l'autre bout et en dehors du cercle.
Et en dehors du cercle. Et à l'intérieur du cercle, parce qu'on est toujours à l'intérieur du cercle, on a, ça fait une croix. On a une des branches, c'est la bonté, l'autre des branches, c'est la méchanceté. Le fait qu'on soit toujours dans ce cercle où l'autre avec un grand A n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas d'altérité là.
Alors, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'altérité, sauf ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'altérité est à l'intérieur de nous, puisque elle est ce que nous désirons et que nous ne pouvons pas être, que nous ne pouvons pas nous représenter, pas plus que nous pouvons être la vie qui cherche à se dire et que nous n'arrivons jamais à dire, sauf à mourir à ressusciter. Bon. Donc vous voyez bien qu'il est là, un espèce à l'intérieur, mais qui ouvre à une intériorité qui est quelque chose que nous ne pouvons pas représenter à l'intérieur de nous, mais qui fonde alors notre désir d'altérité. Mais voyez bien que cette altérité, elle est fondée par une présence qui ne peut pas être représentée dans le monde et pas davantage dans l'objet du monde que le corps est. Il ne peut être entendu que dans le fait que nous sommes la vie, qu'il y a à l'intérieur de nous une vie qui cherche à se dire et à se donner. Et c'est ça l'altérité. Donc viens comment l'altérité a un rapport essentiel avec l'origine, avec ce qui est de nous et n'est pas nous.
Peut-être la partie négative, c'est peut-être pour ça que le pervers ou le pervers qui sommeille en nous tous, d'une certaine manière, en refusant la vie, refuse toujours l'autre, refuse toujours l'altérité. On revient à cette image de quoi ?
Mais c'est aussi dire que tout homme est père. Que tout enfant est pervers, dit Freud. C'est-à-dire que vous voyez bien que ce qu'il cherche à élaborer en devenant bon ou en devenant méchant, même si ça se renverse, c'est la schise du pervers, c'est la forme du pervers. Ce qu'il cherche à élaborer, c'est un autre, forcément, puisque c'est essentiel à l'homme d'être dans ce désir qui lui fait désirer pourrait se lier hors de ce qu'il peut connaître. Mais vous voyez bien que du coup, quand il va se réaliser, s'il constamment il n'est retraversé par ce mouvement du dire ou ce mouvement de la parole même qui cherche à se dire, eh bien, il va projeter son moi.
En ce sens-là, le moi, ça va être la façade, soit le moi totalement bon, c'est l'image.
C'est l'image. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voyez bien que la place du grand autre va se mettre, mais dans son domaine imaginaire, il va courir un moi qui va être bon, tout mauvais.
Mais qui sera lui, d'une certaine manière.
Non, qui sera son moi. Son moi tout seul, tout homme, toute femme, petit, regardez un enfant qui grandit, c'est toujours moi tout seul. Je vais le faire tout seul, moi tout seul. Ou bien, quand c'est pas tout seul, c'est pour manipuler l'autre, c'est-à-dire il est encore plus grand. Alors, moi tout seul. Moi qui est seul d'être tout.
En même temps, Denis Vas, on n'est pas uniquement, bon, sauf cas grave, on n'est pas uniquement dans le moi, le sujet reste. Quand est-ce qu'il émerge ? Quand est-ce qu'on le repère ?
Il ne reste pas. C'est comme la parole. La parole ne reste pas.
Elle ne mais reste... de temps en temps, il émerge, non ? De temps en temps, la parole, elle surgit.
Oui, mais elle ne surgit pas une fois pour toutes. Le sujet est constamment naissant. C'est la bête vivante de la vie. C'est qu'il n'y a pas de parole si je ne vous parle pas. Aucun texte écrit n'est une parole. Pour qu'un texte soit la parole fût-elle celle de Dieu, il faut qu'elle soit pratique. Il faut qu'elle ait un corps. Tu m'as donné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Le grand autre de Lacan, c'est une instance dont la psychanalyse a besoin pour maintenir l'ensemble du système. Le grand autre de Lacan, en rigueur de terre, n'est pas le Dieu de foi, même si d'une certaine manière, il en indique la place. Mais vous voyez bien que le Dieu de la foi, c'est pas le grand autre, c'est le grand autre qui entend qu'il parle en vérité, c'est-à-dire qu'il se manifeste comme la vie même dans toutes nos vies, qu'il parle en vérité, eh bien, n'a pour ce faire qu'une solution, qui est celle de l'origine, c'est-à-dire de s'incarner. C'est-à-dire de se révéler. Et bien que la question de l'humanité, c'est la vérité de la vie. Mmh. Où la vie est vraie. Et ah, on est emporté vers la vérité qui vit. Ou bien c'est une illusion, et alors bon, c'est le nihilisme.
Juste revenir sur cette idée de sujet naissant. Mmh. Vous dites, bon, c'est sens naissant, mais est-ce que quand le moi tombe, quand la façade tombe, enfin, le sujet naissant, il ne dit pas quand même un peu, sans vouloir l'objectiver, est-ce que pas quelque chose, on parlait de colonne vertébrale, enfin, des images comme ça.
La meilleure chose que je peux vous dire, c'est ce que dit Saint Paul, ou ce que dit Thérèse d'Avila, ou ce que dit tout chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ce qui n'est négation de la vie, mais qui est au contraire, justement, ça qui est le don nouveau. Quand vous aimez quelqu'un, que quelqu'un vous aime, bon, un peu métaphorique parce qu'on a l'impression que c'est imaginaire, il vit en vous et vous vivez dans l'amour.
Et en cela, ce sujet ne meurt pas, d'une certaine manière.
S'il meurt, c'est qu'il n'est pas vrai. Du moment que nous sommes vivants, c'est que nous ne sommes pas appelés à mourir. Alors, justement, c'est ça la question. C'est que la mort, qui est interprétée dans la sagesse des nations comme le résultat du péché, la mort, c'est-à-dire la disparition de l'imaginaire, va devenir... le signe de la résurrection.
Alors, je vais peut-être le dire plus simplement, mais la mort comme la disparition de nos projections, l'image qu'on a de nous-mêmes, de tout ce lieu où on n'est pas moi.
Oui, oui. Eh bien, vous voyez bien que c'est le moi tout seul. Le moi, il est toujours tout seul parce que, comme dit Freud, il ne vit que de se défendre. C'est une con de défendre. Donc, vous n'êtes vous-même comme un jour où vous n'êtes pas votre frère. Ce qui est dit dans la foi, c'est même que dans la mesure où vous vivez dans lutter avec votre frère. Non pas que vous êtes moi tout seul, mais que vous êtes seul avec le vivant.
Demain, nous retrouverons Denis pour parler cette fois du désir fondamental qui habite l'homme, désir qui, selon le psychanalyste jésuite, est ouverture à l'autre. Je rappelle le livre de Tony Vass qui nous a servi de fil rouge tout au long de ses entretiens. Il s'intitule « La dérision ou la joie » et il est paru aux éditions du Seuil en 1999. Bonne nuit à vous, je donne donc rendez-vous demain.